Cet enregistrement est consacré en particulier aux entités et implants éthériques. De nombreux facteurs nous influencent constamment, pas juste nos pensées. Dans la spiritualité, on parle surtout des pensées et des sanskars. Mais il n'y a pas juste nos sanskars qui influencent nos pensées. Il y a d'autres facteurs extérieurs à nous qui le font aussi. Nous allons donc nous intéresser ici à deux facteurs en particulier qui sont presque dans la même catégorie. Les entités et les implants éthériques. Ils sont aussi parfois appelés implants énergétiques. On pourrait aussi les appeler des virus énergétiques. Je n'irai pas dans les détails de la description de ces sujets, car il y a déjà de très nombreux bons sites web et de bons auteurs qui en parlent. Cela alourdirait notre sujet inutilement. Peut-être plus tard, je ferai une page web sur le sujet. Je vais plutôt me concentrer sur les solutions. Car en réalité, c'est vraiment ce qui nous intéresse au final. Tout d'abord, les entités, les esprits. J'ai pris l'habitude, depuis de nombreuses années, de scanner l'aura et le corps des personnes avec ma petite antenne de radiesthésie. J'y trouve régulièrement des entités, incluses dans cette bulle énergétique autour du corps, spécialement chez les personnes spirituelles, qui souvent ont tendance à être médiums. J'en trouve aussi dans les centres énergétiques, les chakras, à l'intérieur du corps. Non seulement elles n'ont pas le droit d'être là, mais leur simple présence, parfois inconsciente d'ailleurs, nous influence négativement. L'éventail des influences est très large. Cela peut être juste un peu de fatigue ou une petite douleur d'origine inconnue, mais cela peut aussi affecter profondément notre caractère, nos choix, ou notre niveau d'énergie. Quand on les invite à partir ou qu'on les expulse, l'hôte ressent rapidement la différence. Sur cette page, j'utilise l'appellation « entité » pour signifier une influence négative. Les termes « esprit » ou « âme » sont plus génériques, plus neutres, et ne donne pas vraiment d'indication sur la qualité d'une âme particulière. Lorsque je vérifie la présence de ces passagers clandestins, je ne m'occupe pas des guides et des anges qui sont parfois autour des personnes, car ils ont une influence positive et ils sont là pour nous aider. Par contre, il est utile de se rendre compte de la présence d'entités et de les enlever, car non seulement cela nous aide à être en bonne santé physique, mentale et spirituelle, mais cela augmente nos chances d'entrer en contact avec Dieu, avec l'énergie divine. Je crois qu'une des principales raisons du manque de yoga de beaucoup de courageux biquets est la présence de ces entités et implants éthériques. Quand on commence à parler des esprits dans la famille brahmine, il est facile de voir que c'est un sujet tabou qui fait peur à bien du monde. Pourtant, Gyan vient de la communication avec des esprits. Cette peur nous empêche d'étudier les causes de nos malaises, de nous familiariser avec ce monde parallèle spirituel et d'acquérir les méthodes qui nous permettrait de nous libérer et de nous protéger. La connaissance de ce sujet enlève ses peurs et nous donne des outils pour nous rapprocher de la maîtrise de notre propre vie. Quand on connaît les ordinateurs, les chances d'être infesté par un virus ou piraté par quelqu'un sont minces, car on est bien plus conscient et attentif. C'est la même chose ici. Bien sûr, il est conseillé, il est très bon d'aller voir de bons guérisseurs, des spécialistes qui savent comment vérifier et nettoyer notre bulle énergétique. Mais il est aussi essentiel d'acquérir soi-même un minimum d'informations pour augmenter notre pouvoir intérieur, nous protéger nous-mêmes et nettoyer notre aura. D'ailleurs, il serait bon d'avoir dans la famille Biquet des groupes d'intervenants spécialisés dans ce genre d'intervention spirituelle. Je me souviens d'une question posée à Babdada et écrite à la fin d'un des premiers Jewels of Knowledge, il y a une trentaine d'années. Quelqu'un lui demandait « Quoi faire ?» quand un brahmine était sous l'influence d'une entité particulièrement négative et collante. Babdada lui a répondu que de bons yogis, qui ne se laisseraient pas influencer, autrement dit des incorruptibles, devraient faire une bâtie en cercle autour de la personne et envoyer de l'énergie jusqu'à ce que l'entité s'en aille. Les biquets, les âmes les plus puissantes de l'univers, seraient certainement capables de s'occuper de leur propre famille, n'est-ce pas? Les implants éthériques ou implants énergétiques, ou comme je le disais, on pourrait appeler des virus énergétiques, sont eux des programmes artificiels, subtils, que quelqu'un a introduit dans notre corps ou notre aura, à notre insu bien sûr. La différence avec les entités, c'est qu'ils ne sont pas conscients, bien qu'ils puissent être parfois extrêmement sophistiqués et avoir une intelligence artificielle pour certains. Eux aussi peuvent être positifs ou négatifs. Seuls ces derniers nous préoccupent. Si personne ne vous a jamais enlevé vos implants, il est plus que probable que vous en avez. Dans la spiritualité, on nous a habitués à regarder vers l'intérieur d'abord et presque uniquement. Mais peut-être que nous devrions aussi porter notre attention sur les entités et les trucs robotisés qui sont attachés à notre corps et dans notre aura. Cela nous faciliterait la vie. Pour ceux qui connaissent Star Trek et qui ont regardé les différents films, on se souvient du Borg qui assimilait les êtres humains et on faisait des représentations dans ces films de ces implants. On les représentait de façon physique, mais on peut imaginer qu'il y en a d'autres qui ne sont pas physiques. Quand on compare un disque dur d'ordinateur vide avec un autre contenant des données, nos cinq sens ne voient pas la différence. Pourtant, l'ordinateur, lui, peut y trouver des programmes, des images, des films, des virus, des messages, etc. Toutes ces informations existent dans une autre réalité. C'est un peu la même chose avec notre cerveau qui stocke ces données dans ses milliards de cellules nerveuses, mais aussi dans le cloud, le nuage de l'âme. Toutes ces informations existent, mais nous ne pouvons ni les sentir, ni les voir, ni les toucher. De même, avec une fibre optique, un réseau Wi-Fi ou un téléphone portable. Nous savons que des données sont échangées, mais nos sens ne perçoivent rien. Les esprits et les implants sont semblables à cela. Ils existent, ils nous influencent, mais le plus souvent nous ne sommes conscients ni de leur présence, ni de leur histoire, ni de leur identité. Ils n'appartiennent pas à cette troisième dimension, mais à la quatrième dimension. Nous nous sentons simplement confus, ou fatigués, ou malades, ou en colère, sans raison apparente. Je crois que beaucoup de nos mayas viennent de ces êtres et de ces non-êtres dans notre corps et notre aura. C'est le monde de Maya. Et chacun d'entre nous voyage avec ses passagers clandestins qui se transforment parfois en pirates. résultats. La question importante est « Comment s'en débarrasser? » Ces implants entériques sont d'une technologie très avancée, utilisée dans le cosmos depuis des millions d'années. Ils peuvent être très divers dans leur forme et dans leur programme. En général, ils sont là pour nous contrôler, limiter nos capacités, nous suivre ou détourner une partie de notre énergie au profit des installateurs. Vous trouverez une description des implants les plus habituels sur cette page web dont l'adresse est mentionnée ici. J'avais entendu parler des implants il y a une dizaine d'années. À l'époque, j'avais classé cette information dans la section imagination. Maintenant que j'ai un peu plus de connaissances et d'expérience, je crois que c'est une question importante qui devrait être sérieusement étudiée car elle affecte de très nombreuses personnes. Il serait souhaitable qu'on développe une méthode simple, rapide et efficace pour les neutraliser. On sait qu'on a pu extraire du corps de certaines personnes des implants physiques, des micropuces posées à l'insu des autres par des extraterrestres ou des militaires. On en possède maintenant les preuves physiques. Certains de ces implants physiques sont détruits par des passages dans des machines à résonance magnétique ou par des scanners. Ce qui fait que parfois les porteurs de ces micropuces retrouvent tout à coup des souvenirs surprenants et des habiletés psychiques spéciales. Mais les implants éthériques sont plus subtils. Ils ne sont pas tangibles. Ils sont dans une autre dimension. Cela prend notre sixième sens ou une personne psychique pour les trouver. Voyons voir maintenant les différentes solutions possibles. Il y en a probablement beaucoup d'autres que j'ignore. D'ailleurs, si vous en avez qui sont efficaces, je serai très intéressé à les connaître. Je vous remercie d'avance de me les communiquer. Premièrement, on va parler de la libération des entités par la persuasion. Les entités sont des êtres conscients qui peuvent comprendre nos pensées et nos paroles. La majorité d'entre elles ne sont pas méchantes. Très souvent, elles ne sont même pas conscientes d'être dans la bulle énergétique de quelqu'un. Elles sont perdues. Cependant, comme elles ont leurs propres pensées et émotions négatives, elles influencent donc leurs hôtes et transporteurs involontaires. Ce sont souvent des âmes effrayées, blessées, égarées, perdues. Les interventions doivent donc se faire non seulement avec de la détermination, mais surtout avec beaucoup d'amour. Premièrement, il est bon de se mettre dans une conscience puissante. En se répétant, comme le préconise Soya Bai, « Je suis une âme très puissante. Je suis un maître à l'autorité toute-puissante. » Et bien sûr, de ressentir cette énergie, de ressentir cette puissance. Deuxièmement, il est bon de demander l'aide de la lumière, de Dieu, des anges et des guides qui n'attendent que cela et qui vont s'occuper ensuite de l'entité en détresse. Souvent, nos guides ne peuvent pas intervenir directement dans notre aura parce que c'est notre champ privé. Troisièmement, on va s'adresser directement à l'âme, soit par la pensée, soit à haute voix, pour lui expliquer qu'elle est garée à la mauvaise place et qu'elle n'a pas le droit d'être là, que c'est notre espace privé. Il est bon de lui dire que cela nous crée des problèmes. Autrement dit, on informe l'esprit, l'entité, de sa présence et qu'elle n'est pas vraiment la bienvenue. Numéro 4. on va expliquer à l'entité qu'elle n'appartient plus au monde des incarnés, que sa place est dans le monde des esprits et qu'elle sera beaucoup plus confortable dans l'autre dimension. Elle pourra alors continuer son évolution plutôt que de parasiter quelqu'un. Numéro 5. On va lui dire et répéter avec détermination qu'elle doit s'en aller. Certaines sont un peu dures de la comprenette. D'autres ont peur de Dieu, du karma ou de l'inconnu. Celles-là doivent être alors rassurées. Mais la plupart vont simplement s'en aller. En effet, ces entités sont comme des personnes de tous les jours. Si quelqu'un entre par erreur dans votre maison et que vous lui dites de partir, en général, elle va le faire. Numéro 6. J'envoie préférablement les entités vers la lumière. Mais si elles semblent ne pas vouloir y aller, je les envoie ailleurs, de leur choix. Mais pas ici. Et avec interdiction de revenir. Ceci est un plan général d'intervention que vous pouvez modifier à votre guise. Il fonctionne pour une majorité d'entités. En effet, cela leur permet de prendre conscience qu'elles ne sont pas à la bonne place et qu'elles ne sont pas les bienvenues. Comme n'importe quelle personne à qui vous demandez de partir, elles vont tout simplement obtempérer. Il faut tout de même se souvenir que certaines de ces entités peuvent être de chairs disparues qui n'ont pas réussi à se détacher. Et j'ai vu cela en particulier pour les entités logées dans le chakra du cœur. Il est donc d'autant plus conseillé d'être diplomate, empli d'amour, détaché, rassurant et déterminé en même temps. La deuxième méthode est la libération des entités par la visualisation. Beaucoup d'esprits comprennent mieux avec des images, qui d'ailleurs créent une réalité virtuelle très puissante. Par exemple, visualisez la lumière divine dans le monde des âmes et un tunnel pour y accéder. Encouragez les entités à s'y engager. Ou imaginez le monde des anges et leur expliquez que c'est leur nouvelle demeure. Ou encore, imaginez qu'on part soi-même vers le monde des anges et qu'on les emmène avec nous. Ou encore, imaginez un vortex d'énergie aspirant vers la dimension subtile ou divine, les y pousser mentalement. Ou encore, leur demander qui elles sont et laisser ensuite apparaître leur visage sur l'écran mental. Ou encore, visualiser qu'on coupe tous les liens et qu'on annule toutes les ententes et tous les contrats qu'on a pu avoir avec ces entités. Ou encore, on peut les enfermer dans une bulle d'énergie d'or et les envoyer dans la lumière. La méthode 4, que je décris plus loin, ma préférée présentement, est une combinaison de ces visualisations et pensées. Je me suis amusé parfois avec succès à faire des départs de groupe. Je ne vois pas moi-même les esprits, les entités autour, je peux les repérer. Mais certains de nos étudiants, qui les voient parfois, nous ont dit que certains esprits viennent participer quelquefois à nos méditations et s'en vont aussi discrètement qu'ils sont arrivés à la fin de la méditation. Je pense que certains profitent de notre connexion avec la lumière, pour partir dans l'autre dimension. Ils ont dû se passer le mot. Notre troisième méthode est plus physique. On va éloigner les entités avec de la fumée. J'ai été très surpris de constater que certaines entités sont effectivement sensibles à la fumée de la sauge blanche et du foin de senteur, de sweet grass, utilisées par les Amérindiens. Peut-être qu'elles sont allergiques à la fumée. Il est possible que la fumée de certains encens soit aussi efficace. Je me suis laissé dire que la sauge sauvage l'était aussi. Je n'ai pas encore vérifié. Paraît-il que si on rajoute aussi du cèdre ou de la lavande, cela aide aussi. Toujours est-il que faire boucaner de la sauge blanche dans l'aura de quelqu'un semble décourager les entités qui y sont logées. Certains accompagnent ces pratiques de prières, de chants, de rituels, etc. Est-ce que c'est plus efficace que ma façon très directe et simple de le faire, en disant aux entités de simplement partir dans la lumière? Je ne sais pas. Peut-être. C'est selon le goût de chacun. Mais il est quand même intéressant de noter que le nom de la sauge en anglais est sage, sage. La fumée de la sauge est aussi une bonne méthode pour purifier un endroit, en faisant circuler la fumée un peu partout, en particulier dans les recoins. Je ne sais pas pourquoi cela marche, mais cela a l'air d'être efficace avec plusieurs d'entre elles. Cependant, celles qui sont logées dans nos chakras ou celles qui sont têtues ou malveillantes ont tendance à résister. Il faut insister. Il m'est aussi arrivé d'utiliser quelquefois directement une flamme dans l'aura. Quand je sais qu'une entité est à un endroit en particulier, ou pour chasser des entités animales. J'ai eu un exemple d'une personne qui avait travaillé dans un abattoir, par exemple, et son aura était emplie d'entités animales perdues. Cela a très bien fonctionné. Vous pouvez trouver de la sauge blanche sur Amazon ou dans certains magasins d'alimentation naturelle. Vous pouvez aussi acheter des graines et la faire pousser vous-même. Personnellement, j'utilise des petits contenants qui sont utilisés normalement pour faire infuser du thé, en particulier des petits contenants qui sont comme des pinces. Et je mets un petit peu de sauge blanche à l'intérieur, je le chauffe, je l'allume, et je me balade avec ça. C'est très sécuritaire, ça évite d'avoir des petites flamèches qui se répandent partout, et ça fait la job. L'innovation et la créativité sont bienvenues. Donc, encore une fois, si vous avez trouvé des méthodes efficaces, je serai heureux de les connaître. Je les essaierai. La quatrième méthode, la libération par la visualisation et la lumière d'or. Les implants éthériques négatifs et les entités têtues sont dans la même catégorie. Ils doivent être enlevés manu militari, autrement dit par la force. Donc, pour revenir à nos méthodes, la dernière méthode en date que j'ai trouvée a été inventée ces dernières années par Eric Raine, un États-Unien, un gars fort sympathique qui est prêt à partager avec le monde entier. Mes expériences personnelles en utilisant ces images sont très encourageantes. Elles sont très efficaces. Vous trouverez plus bas des liens vers YouTube où il explique en détail sa méthode en anglais. Quand j'aurai un petit moment pour traduire ces vidéos, je le ferai. Je ferai aussi des méditations spéciales sur ce thème. Pour le moment, je vais me contenter de mettre les liens importants et de faire un résumé de sa méthode. Je vous conseille fortement d'écouter ses vidéos et de lire ses articles sur son site. Si vous ne comprenez pas l'anglais, vous pouvez demander à Google de vous traduire les pages web automatiquement. Ce n'est pas parfait, mais cela donne une bonne idée du contenu. La méthode d'Eric Raine est une synthèse qui comprend Dieu, le chi, autrement dit le prana, la kundalini, l'âme, les pensées, la lumière dorée et les visualisations. pour les entités comme pour les implants, quand on n'a pas la ressource personnelle pour les situer, on peut se fier à ces impressions dans le corps. En effet, leur présence provoque souvent une lourdeur ou une douleur locale sans raison, ou une confusion si c'est au niveau de la tête, ou une manifestation particulière au niveau des différents chakras. Par exemple, quand une entité ou un implant est situé au niveau du chakra de la base, la personne va sentir de l'insécurité, de la colère, un manque d'énergie. Quand c'est situé près du nombril, c'est souvent lié à un grand manque d'énergie. Quand c'est situé près du chakra du cœur, dans le chakra du cœur, cela génère des émotions bizarres et une grande difficulté à aimer. Au niveau du chakra de la couronne, ou l'ajna chakra, il y a beaucoup de pensées perdues. Il y a de la confusion, ou un bavardage continuel, et ou une difficulté à avoir du yoga, etc., etc. Quand on a une petite idée de la place, du ou de la coupable, on peut commencer par là. Quand on n'en a aucune idée, on peut commencer par les trois places les plus fréquentes pour les implants. À l'arrière du cou, à l'arrière du cœur et derrière le nombril. Puis on peut passer au chakra de la base, l'ajna chakra, autrement dit le troisième œil, l'âme, puis celui de la couronne, etc. Un jour, on va probablement trouver une méthode rapide pour tous les enlever d'un coup. En attendant, on les enlève un par un. Si je trouve une méthode efficace et rapide, je la mettrai sur ce site. Donc, le résumé de la méthode 4 que vous trouvez dans les vidéos. On commence par se connecter à l'âme suprême. Ensuite, on va demander l'assistance de Dieu, des anges et de nos guides. Puis, on va connecter le bas de la colonne au centre de la Terre. On peut imaginer, par exemple, un gros cristal au centre de la Terre. On va essayer d'augmenter le chi, le prana, l'énergie dans le corps, par différents exercices. Ou en visualisant la kundalini qui monte le long de la colonne vertébrale. On va se mettre en conscience d'âme et on va envoyer de la lumière dorée dans tout le corps. On va emplir tout le corps d'une lumière dorée intense. On va imaginer que Dieu nous envoie cette lumière et remplit le corps de cette lumière. En même temps, bien entendu, on dit à tous les passagers clandestins de s'en aller. Ensuite, on va imaginer un ovoïde de lumière autour de notre corps, une sorte d'œuf de lumière, en or, très brillante, et on va remplir toute cette ovoïde de lumière d'une lumière dorée intense. Et là encore, on dit à toutes les entités et à tous les implants de s'en aller. Donc, si on a une petite idée de l'endroit où se trouve une entité ou un implant, on va imaginer un globe lumineux très solide de lumière d'or et mentalement, on va y emprisonner l'entité ou l'implant. On va remplir ce globe de lumière d'or. Ensuite, on va imaginer nos mains éthériques, nos mains subtiles en or, qui viennent saisir fermement ce globe d'or. Puis on va mentalement décrocher ce globe et son occupant de notre corps et les en sortir doucement. On peut demander une dernière fois à l'occupant s'il veut changer de camp. Puis on va imaginer un puissant vortex aspirant venant directement du Tout-Puissant, comme une sorte de grand tuyau d'aspirateur cosmique. Puis on va envoyer le globe dans le vortex avec son occupant pour recyclage. et on va le regarder disparaître dans la lumière. Bien entendu, ils ont interdiction de revenir. Et voilà. Vous pouvez trouver plus de détails sur le site d'Eric Raine, y compris ses vidéos. Il y en a pour la protection, l'extraction, la préparation énergétique, etc. Je vous les conseille.